Kiosque Magazine.
Jeudi 9 juillet, comme à tous les jeudis, Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, allons vous présenter dans la prochaine heure l'édition de Kiosque Magazine réservée à l'économie et à l'emploi. Ce sont les vacances, à tel point que les ponts de Montréal sont presque fréquentables. J'en ai, pour ainsi dire, été étourdi ce matin. Ça n'empêche pas l'activité économique d'être assez intense, n'est-ce pas, Éric?
Pas de vacances pour l'économie, François, on le sait bien dans cette émission. Mais s'il n'y a pas de vacances, je vais vous parler de Mirage. Ça compensera un peu, ça nous donnera l'impression de prendre un bain de soleil dans le désert. Le mirage notamment de l'économie du partage. Les succès de nouvelles entreprises basées sur des plateformes de mise en relation de l'offre et de la demande autour de biens et de services semblent fulgurants, au point que beaucoup y voient un nouveau paradigme économique autour duquel une part importante de nos vies devrait se structurer. Eh bien, le succès de nouvelles entreprises basées sur des plateformes de mise en relation de l'offre et la demande et sont peut-être pas aussi extraordinaires que ça. On en parlera en détail.
Oui, ce genre de plateforme, on pense instantanément à Uber, évidemment.
Exactement, mm-hmm. ce qu'on appelle l'ubérisation est peut-être un mirage. Évidemment, un mot sur la Grèce. Alors, pas un mot direct, parce que tout ce qu'on vous dirait dans quelques minutes serait obsolète immédiatement, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais plutôt des grands principes. Et moi, je voudrais qu'on parle du nom allemand. Il y a l'aspect événementiel de la crise grecque, hein, qui met l'accent sur les relations entre les décideurs, ou du moins ceux qui sont censés remplir ce rôle, et le fait qu'il existe au moins 8 ou 9 personnes en Europe qui revendiquent le statut d'interlocuteur, sinon unique, du moins final, de M. Tsipras, ça complique pas mal les choses. Mais il y a un autre décideur, plutôt une série de décideurs, ce sont les peuples. Alors comment est-ce qu'on compte avec eux? On verra. Et puis pour terminer en ce qui me concerne, je vous propose d'essayer de penser autrement. Est-ce que vous avez remarqué la fâcheuse manie qu'on a toujours utilisé les mêmes raccourcis en termes de pensée? Dans la vie, hein, même physiquement, on emprunte les mêmes trajets sans y penser, sans se demander s'il n'y en aurait pas un meilleur, un plus joli. Et au travail, on se complaît souvent dans la routine en effectuant tout le temps les mêmes tâches de la même manière. Eh bien, c'est une façon de fossiliser. Il faut essayer d'y résister, à la fois physiquement et intellectuellement.
Et pour ma part, vous ne le savez peut-être pas, mais actuellement, une des plus grandes crises boursières de l'histoire de l'humanité qui est en cours. Ça ne nous a pas rejoints. On verra pourquoi au cours de cette émission. On s'interroge aussi sur ce qu'est le travail d'une mère, ce que ça vaut le travail d'une mère. Quels sont les sacrifices qu'un parent qui décide de rester à la maison pour élever ses enfants doit consentir sur sa carrière et comment les compenser, surtout en provenance de l'autre parent? Ce sont des questions, on le sait, qui sont dans l'actualité québécoise actuellement. Isabelle Ducasse a consacré un très long article là-dessus. On n'aura pas le temps de tout le lire, mais j'ai hâte d'aborder le sujet. Moi aussi, je vous parle de Grèce parce qu'on ne peut pas éviter de parler de la Grèce. Cette semaine, vous nous parliez du nom allemand, je vous parle du nom grec. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Oui, alors, on le sait, ce dimanche, le peuple grec était invité à voter à un référendum. Un référendum où la question était toute simple. Êtes-vous d'accord pour que le gouvernement grec accepte les conditions de refinancement de la dette que lui suggéraient ses trois créanciers principaux, la BCE, le FMI et l'Union européenne? Bon, on le sait aujourd'hui, les Grecs ont répondu non, un non massif. L'actualité mondiale s'est emballée sur ce sujet. On y revient un peu partout dans la presse et c'est intéressant d'y revenir aujourd'hui. Vous le disiez vous-même, là, que ça risque d'être obsolète dans le cours des prochaines minutes puisque le gouvernement grec doit déposer une contre-offre qu'on veut finale parce que tout le monde voudrait que ça soit terminé pour dimanche. On sent que ces messieurs à cravate en Grèce veulent partir en vacances. Alors, un texte de Guy Taillefer publié dans Le Devoir du 7 juillet. Référendum grec, un courageux pied-de-nez. Formidable pied-de-nez des Grecs à l'ultimatum des créanciers, mais pied-de-nez qui ne résout rien tant s'en faut. Les prochains jours vont être cruciaux. Le mandat que vous m'aviez confié n'est pas celui d'une rupture avec l'Europe, a bien dit le premier ministre Alexis Tsipras à l'issue du référendum de dimanche. Sauf que Berlin reste absurdement sur ses positions. Place Syntagma, dimanche soir à Athènes, foule galvanisée par le nom que les Grecs viennent de servir dans une proportion sans équivoque de 61,3%, beaucoup moins serré que prévu, à l'injuste plan d'aide que le FMI et les créanciers européens tentent de leur faire avaler. Mais maintenant, quoi? Les coffres des banques grecques qui resteront fermés jusqu'à mercredi ne contiendraient plus guère que 500 millions d'euros, 45 euros par personne dans ce pays de 11 millions d'habitants. Il pressait que, dans l'immédiat, la Banque centrale européenne aide la Grèce en faillite à surnager en reprenant son financement d'urgence à hauteur de 89 milliards d'euros, ce qu'elle a fait lundi en durcissant les conditions de prêt. Le fait est que les mauvais sentiments entre Athènes et la Troïka, FMI, Banque centrale européenne et Commission européenne, ont fini par faire complètement déraper toute logique de compromis. M. Tsipras participe mardi à Bruxelles au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement européens pour présenter ses propositions dans la foulée du référendum. Mais la chancelière allemande Angela Merkel a déjà fait savoir qu'il était absolument exclu pour Berlin d'ouvrir un débat sur la question fondamentale pour la Grèce de la restructuration de son énorme dette publique de 322 milliards d'euros. Il faudrait pourtant l'ouvrir, ce débat. Pour beaucoup, la Troïka a commis une erreur en refusant d'envisager une renégociation de la dette devant l'évidence que la responsabilité de cette dette était partagée et dans un contexte où il devenait de plus en plus clair que les exigences de remboursement écrasaient l'économie nationale. Une dette qui résulte autant de l'imprudence de l'État grec que de celle des banquiers français et allemands notamment, qui ont noyé le pays dans une mer de milliards et qui l'ont regardé s'assécher. Fin 2014, alors que l'économie recommençait après 6 ans de dépression à donner des signes de sortie de crise, la BCE et le FMI ont fermé les vannes au gouvernement conservateur d'Antonis Samaras en décidant qu'il n'en faisait pas assez pour se plier aux exigences du programme d'ajustement structurel. « Ce fut une bévue, j'ajouterais une catastrophe », écrivait lundi dans le New York Times l'ancien ministre grec des Finances, Gilkas Ardouvelis, dont on peut difficilement dire qu'il est à gauche. Une bévue qui allait favoriser l'élection en janvier 2015 du gouvernement de coalition Syriza. L'approche technocratique des élites européennes n'a pas changé d'un iota depuis. Les ténors de Syriza, de leur côté, n'ont manifestement pas été des plus habiles dans les négociations. En définitive, les créanciers européens ne peuvent pas vraiment s'étonner que, 6 mois plus tard, les Grecs leur aient à nouveau, par voie référendaire, fermé la porte. Et l'Europe et la Grèce ont intérêt, dans l'état actuel des choses, à trouver un terrain d'entente pour éviter une sortie de l'euro. Possible, comme certains le pensent, que les parties soient inéluctablement engagées dans un mouvement de rupture. Mais pour toute l'inimitié que les Grecs éprouvent à l'égard de Bruxelles, ils semblent quand même vouloir apprendre à vivre avec l'euro. Un Grexit leur serait en effet une opération déchirante et complexe, et si la Grèce constitue un poids-plume dans l'économie européenne, il n'en reste pas moins que, pour les architectes de l'Europe actuelle, un Grexit constituerait un recul notable, non sans soulever son lot d'aléas géopolitiques et non sans encourager l'idée d'autres défections. Espérons avant tout que cette crise puisse sortir une Europe puisse sortir une Europe plus juste, moins comptable et moins néolibérale. Ce non est un grand oui à l'Europe démocratique, a résumé le ministre de l'économie Yanis Varoufakis, qui a été viré d'ailleurs dans la foulée des résultats pour avoir frustré son chef le soir du dévoilement des résultats, que M. Tsipras a lâché lundi matin, apparemment soucieux d'apaiser ses relations avec les créanciers. C'est dans cet esprit qu'Angela Merkel aurait intérêt à assouplir sa position si elle ne veut pas qu'on retienne d'elle que son intransigeance a défait l'Europe. Et j'ajoute en terminant, pour des nouvelles qui sont sorties d'un autre texte, Christine Lagarde, qui dirige actuellement le Fonds monétaire international, admet, reconnaît et n'a aucune difficulté à dire qu'il faut absolument consolider la dette grecque, la rabattre en partie. Ça n'a aucun sens, ils n'y arriveront pas. Alors, perdu pour perdu, cette dette-là ne sera pas payée vraisemblablement. La question, c'est est-ce qu'on doit le faire avec les Grecs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe? Et ça, c'est le débat que vous allez aborder dans quelques instants.
Oui, ne quittons pas la Grèce. Et rebondissons sur ce que vous venez d'évoquer, François. Un mot quand même sur ce que vous avez dit sur Mme Merkel, enfin ce qui était écrit dans l'article. Bien sûr, elle doit infléchir sa position, je suis tout à fait d'accord, mais le peut-elle? Parce que Mme Merkel, elle n'est pas toute seule à décider, son Parlement est derrière, et son Parlement est souverain, en l'occurrence, pour répondre quelque chose de définitif sur cette question.
Oui, mais elle et M. Schäuble se sont peints dans un coin régulièrement depuis un an, ça en est impressionnant.
Ouais. Alors, effectivement, c'est une raison supplémentaire d'essayer de nous pencher sur... la question de ce blocage dans le dénouement de la crise grecque. Hein. Parce que, je vais contredire ce que je viens de dire à l'instant, mais un dirigeant, il est en principe élu pour prendre des décisions sans forcément consulter le peuple, à partir du moment, bien entendu, où il est muni d'un mandat. Seulement, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Le peuple, le parlement, le mandat, tout ça, c'est dans un shaker dont il sort parfois un jus difficile à avaler. Alors, Éric Desrosiers a voulu faire le point sur le nom allemand dans Le Devoir, et je vous lis son article. La crise grecque nous rappelle qu'en démocratie, quelle que soit l'importance ou la complexité d'un enjeu, et quoi qu'en pensent les puissants et les experts, il finira toujours par devoir se soumettre au test de l'opinion publique. Le dilemme devant lequel sont placés les citoyens grecs est cruel. Au début de l'année, ils ont passé outre les mises en garde des prophètes de malheur et porté au pouvoir un parti politique, Syriza, qui leur avait fait deux promesses, mettre un terme aux politiques d'austérité qui saignaient leur économie depuis 5 années et maintenir leur pays au sein de la monnaie unique européenne. Alors là, c'est en général là qu'on pousse des cris d'orfraie en disant « Oui, mais il ne fallait pas augmenter les fonctionnaires dans des proportions comme ça. Vous rendez compte que la fonction publique en Grèce, c'est 54% des gens qui travaillent. En France, c'est 24% et pourtant, c'est la plus grande part en Europe. Il ne fallait pas, alors peut-être qu'effectivement, mettre la retraite à 53 ans, c'était peut-être un petit peu jeune. Bon. » Ok. Simplement, si vous n'avez pas de fonctionnaires dans un pays où il n'y a pas d'industrie, alors il n'y a que du chômage. Hein, on peut aussi voir les choses comme ça. Bon, pardon, je ferme la parenthèse. Convoqué en catastrophe par le gouvernement à un référendum ce dimanche, ils se font dire maintenant qu'ils devront choisir l'un ou l'autre. Les conditions dans lesquelles se déroule... Alors, pardon, juste pour dire que l'article date d'avant le référendum, mais c'est sciemment, c'est pas parce que j'avais la paresse d'attendre que les événements se passent, c'est parce que c'était intéressant de prendre le point de vue de la position du peuple dans l'histoire et non pas juste l'accumulation des faits qui tombent sur les...
Je reconnais bien ici votre imperméabilité coutumière à la chaude actualité.
Oui, mais... il faut que je compense ce domaine dans lequel vous excellez, François. Les conditions dans lesquelles se déroule le référendum sont loin d'être idéales. Décidé à seulement une semaine d'avis, sa question porte sur une offre du champ européen qui n'est techniquement plus valide et méticuleusement détaillée dans deux documents rédigés en anglais par des fonctionnaires et des banquiers qui ne pensaient visiblement pas à un large public. C'est bien dit ça, monsieur Desrosiers. Pour compliquer encore un peu les choses, les deux camps n'ont pas cessé d'apporter de nouvelles informations et de lancer d'autres propositions depuis le déclenchement de la campagne. Comme il fallait s'y attendre, le débat n'a pas exactement fait dans la nuance non plus le gouvernement du premier ministre grec, Alexis Tsipras, faisant dans le jovialisme en promettant qu'un non à la proposition européenne n'aura aucune conséquence néfaste, alors que pour l'autre camp, seul un oui peut sauver la Grèce de son expulsion de l'européenne et même du chaos et de la dictature. Il faut dire que le dernier sprint de négociation entre les deux camps semble s'être déroulé dans un climat vicié. Selon les uns, le gouvernement de Tsipras y a totalement manqué de sérieux et essaie maintenant avec son référendum de se décharger de ses responsabilités sur les citoyens grecs. Selon les autres, le camp européen n'a jamais eu d'autre intention que de casser la résistance grecque à leur politique d'austérité ou de pousser le cancre économique grec en dehors de l'Union européenne. Je fais encore un aparté sur le cancre grec parce que j'aime pas ce mot, c'est trop facile. Il y a eu des réformes, il y a eu des mesures qui ont été prises pour commencer à lutter contre la corruption, il y a eu des choses qui ont été faites pour commencer à réfléchir à ce que devrait être un cadastre, à changer les relations avec les églises, à faire quelque chose pour les 50 familles d'oligarques qui tiennent le pays en main et pour essayer de ramener les armateurs dans le giron de la politique publique. Et y compris sur le fait, par exemple, qu'on a pu geler les transactions bancaires en 24 heures, qu'on a pu organiser un référendum en quelques jours, ce pays montre qu'il a des capacités d'organisation qui sont plutôt hors du commun.
Donc, on doit dire aussi que dans l'état actuel, l'économie grecque, elle est excédentaire si on fait abstraction du service de la dette. On a réussi à revenir dans le positif, dans l'absolu. Évidemment, il faut payer la dette et la dette plombe tout. Mais cet effort-là, il a été fait.
C'est ce qu'on appelle l'excédent primaire, c'est-à-dire que les impôts permettent de couvrir les dépenses. Et vous avez raison. Alors, Il faut faire juste attention, c'est que c'est plus vrai depuis quelques mois, semble-t-il, d'après. Mais bon, c'était aussi logique, puisque, évidemment, comme on est rentré dans des systèmes inflationnistes qui se sont ajoutés les uns aux autres, on ne voit pas comment cet excédent primaire aurait pu tenir longtemps. Cela dit, vous avez parfaitement raison, ça a été une des premières conséquences lorsqu'on a commencé à traiter les choses. Donc, Monsieur Desrosiers, juste sur le mot cancre, mettons-nous d'accord, ce n'est pas le bon et on peut peut-être en employer un autre. Il est facile, dans ce contexte, de voir la résistance populaire aux politiques d'austérité et le référendum de dimanche comme l'expression du principe démocratique contre la dictature des marchés et des technocrates. Le problème est que la Grèce n'est pas la seule démocratie en cause, lorsqu'il est question notamment de l'avenir de l'euro, a fort justement rappelé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. En Europe, aucune démocratie ne vaut plus qu'une autre, et dans la zone euro, il y a 19 démocraties, dont une contre 18, et non 18 contre 1. C'est évidemment le point de vue de petits pays comme la Slovaquie ou d'autres qui disent on est moins riche que les Grecs, on a fait des efforts supérieurs à eux, nos retraites sont plus petites, on s'en va à 67 ans, et il faudrait qu'on continue à payer, on l'a mauvaise. Et on peut comprendre parfaitement ce point de vue. Si on tentait des référendums dans chacune de ces démocraties sur la réponse à donner aux demandes de la Grèce, il n'est pas sûr que les résultats iraient dans le sens espéré. Le premier cas auquel on pense est évidemment les électeurs de la riche et intransigeante Allemagne, dont 7 sur 10 laisseraient par exemple la Grèce se débrouiller seule avec sa dette, et seulement 1 sur 10 accepterait que leur pays ou les institutions européennes en assument une partie. Presque 3 sur 5 en sont même venus à souhaiter le départ de la Grèce de la zone euro. Mais les Allemands ne sont pas les seuls tenants de la fermeté. Plus de la moitié de tous les Européens ayant la même monnaie en partage estimeraient que les Grecs doivent s'arranger seuls avec leurs dettes, soit 2 fois plus que ceux qui seraient prêts à ce qu'on les fasse. Fait à noter, parmi les peuples qui se montrent les plus intransigeants à l'égard de la Grèce se trouvent les Espagnols, les Portugais et autres Irlandais qui ont aussi eu leur crise financière et qui ont aussi dû se soumettre aux diktats de ceux qui leur sont venus en aide. On comprend mieux devant cette opinion publique que tellement de gouvernements européens soient partisans de la ligne dure à l'égard de la Grèce.
Un aparté ici, peut-être. Les Irlandais, les Espagnols, les Italiens ont effectivement fait des efforts qui sont considérables, mais jamais leur situation a été de l'ampleur de celle de la Grèce, là. Il faut se garder de penser qu'on avait une solution qui marchait pour les 4 problèmes et pas d'un coup en Grèce, ça fonctionne pas parce que les Grecs fonctionnent mal. C'est pas vrai. Le problème grec était beaucoup, beaucoup plus grave que les problèmes italiens, espagnols, portugais et irlandais.
Et ces 4 pays que vous venez de citer sont des pays qui ont un État qui est suffisamment organisé pour faire rentrer l'impôt, pour organiser les choses et pour imposer des réformes de façon plus ou moins rapide et dure, mais ils en ont la capacité. En Grèce, il faut toujours le répéter, le problème c'est qu'il n'y a pas d'État, et ça fait 8 siècles que ça dure. Il n'y a pas d'État en Grèce, et il n'y en aura pas en 6 mois. Donc, si on se dit, ben, on va aider la Grèce à devenir un État, là, on parle de quelque chose qui a du sens. Et si on fait un plan qui s'étale sur 10 ans pour voir comment on peut les aider à faire ça, ça a du sens. Je voudrais d'ailleurs dire que la France, Bercy, a envoyé la semaine dernière 10 fonctionnaires pour aider le système administratif grec a commencé à mettre en place des réformes de recouvrement de l'impôt. Je trouve que ça, c'est vraiment une chose très utile. Je sais que la France a une image particulièrement bonne en Grèce en ce moment, et elle est notamment justifiée à travers des événements comme celui-là, qui sont complètement à l'opposé des grandes tirades qu'on entend venues de Bruxelles.
Oui, ici, je fais un autre aparté pour vous dire que quand un pays voit son salut dans la fiscalité française, on est mal parti.
Touché!
Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non. allait mieux. À quoi ça sert d'aller mieux? Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 je ne veux pas l'oublier. Non, 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 je ne veux pas m'en passer. Je veux juste aller mal, y'a pas de mal à ça. Peiner, manger que dalle, écouter Barbara. Peut-être reviendra.
Camélia Jordana qui chantait Non, 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 non. C'est tout à fait dans l'air du temps, effectivement. Les gens ne sont pas très positifs aujourd'hui. Bon, vous ne l'avez peut-être pas senti passer, ce tremblement de bourse qui agite le monde entier actuellement. Ben, je dis le monde entier. Il faut voir qu'en Europe et en Amérique, on le regarde avec un certain stoïcisme. La bourse de Wall Street a légèrement fléchi hier, mais rien de dramatique. Non, ce tremblement de bourse, c'est en Asie qu'il se passe, et plus particulièrement sur les places boursières de Shanghai et de Shenzhen. On va en mesurer l'ampleur grâce à ce texte de Bill Savadovi de l'agence France Presse, publié dans la presse du 8 juillet. La bourse de Shanghai chute de 6 % malgré les mesures d'urgence. La bourse de Shanghai a dévissé de quasiment 6 % mercredi en clôture dans un climat de panique générale, en dépit de nouvelles mesures d'urgence des autorités et de la suspension des échanges sur quelques 1300 titres des marchés chinois. L'indice composite shanghaïen, l'indice composite, ça c'est, on prend des références phares, une couple de grandes entreprises, on met ça dans une grosse salade et c'est à l'aide de la valeur de ces entreprises-là qu'on fixe est-ce que l'indice monte ou descend. Voilà, le, par exemple, le Dow Jones ou le TSX, c'est la même chose. Donc, l'indice composite shanghaïen a terminé sur un plongeon de 5,90% à 3507 points et il a lâché jusqu'à 8,2% en séance après une chute libre à l'ouverture. La bourse de Shenzhen a un peu mieux résisté, ne reculant que de 2,5%. C'est un véritable mouvement de panique. Comme un couteau en train de tomber, je ne suggérerais à personne de l'attraper au vol, grinçait Tony Chou, gérant du fonds RS Investment Management, cité par Bloomberg News. Les places chinoises ont abandonné plus de 30 % en trois semaines. 30 % en trois semaines, c'est énorme comme chute. Voyant s'envoler plus de 3200 milliards de dollars en valeur, selon une estimation publiée par Bloomberg, soit une douzaine de fois le produit intérieur brut de la Grèce l'an dernier, pour vous donner un ordre de grandeur. La débâcle se poursuivait mercredi dans un climat d'affolement général qu'aucune admonestation ou annonce au gouvernement ne parvenait à endiguer. Et ce, alors que la contagion gagnait la bourse de Hong Kong, qui a plongé mercredi de 5,8%. La panique des investisseurs et ses ventes massives irrationnelles provoquent une forte pression sur la liquidité des bourses, déplorait Deng Jie, porte-parole de la CSRC, le régulateur des marchés. Les autorités chinoises avaient pourtant dévoilé précipitamment tout un train de nouvelles mesures adoptées à marche forcée, mais impuissantes à inverser la tendance. Les compagnies d'assurance sont ainsi désormais autorisées à placer une proportion accrue de leurs actifs en bourse, 40 % contre 30 % précédemment, et peuvent investir jusqu'à 10 % de leurs fonds sur un seul titre, ce qui est une catastrophe en termes de stratégie de placement. Pékin s'est également engagé à ouvrir les lignes de crédit de 260 milliards de yuan, 43 milliards de dollars donc, aux maisons de courtage pour qu'elles poursuivent leurs acquisitions de titres en bourse. La Banque centrale a, elle, promis dans un communiqué de soutenir le développement stable des marchés en assurant un financement aux opérations sur marge, les achats d'actions par endettement, et c'est la catastrophe actuelle, elle vient principalement des opérations sur marge. Enfin, une centaine de grands groupes étatiques chinois se sont vus interdire de vendre les actions de leurs filiales cotées, tandis que la CSRC enjoignait aux actionnaires possédant plus de 5 % des entreprises cotées de conserver leur participation. Rien n'y fait. Face à un climat de défiance générale, les investisseurs en quête de liquidité continuaient à vendre massivement leurs actions pour s'en procurer. Autre facteur d'inquiétude, les échanges sont désormais interrompus sur plus de 1300 entreprises cotées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre vos actions, même si vous vouliez, même si vous êtes prêt à perdre de l'argent dessus, vous n'avez pas le droit de les vendre, on les a retirées du marché. Afin d'empêcher leurs titres de descendre encore plus bas, environ 40 % de la cote se trouve donc paralysée. Le fait qu'une telle quantité d'entreprises soit suspendue restreint la liquidité disponible, car les titres concernés ne peuvent plus être vendus. Et cela accroît les risques pour les actions qui s'échangent encore, avertissait Li Daxia, analyste du courtier Yingda. Du coup, les investisseurs n'ont d'autre choix que de commencer à vendre les blue chips, confirmait Zhang Yanbing et Zhejiang Securities. Résultat, l'indice continue de s'enfoncer. L'arsenal de mesures coup de poing du week-end dernier n'aura donc pas convaincu. Les 21 principales sociétés de courtage chinoises s'étaient engagées samedi à investir quelque 19 milliards dans les produits boursiers et les régulateurs avaient promis d'arrêter les introductions en bourse pour éviter toute perturbation supplémentaire. Or, l'écrasante majorité des investisseurs sur les bourses chinoises sont des particuliers. Pardon. Souvent suivistes et s'étant fortement endettés vis-à-vis des opérations sur marge pour investir. Ça nous rappelle un peu la situation aux États-Unis en 1929. La bourse va tous vous enrichir, emprunter pour acheter des actions, elles vont se payer toutes seules. Eh bien, si les actions descendent, vous vous retrouvez avec des dettes qui ne sont plus garanties sur rien, des rappels de marge, vous paniquez et vous vendez. Le phénomène a alimenté sur l'année passée l'envolée des marchés, mais il contribue maintenant à accélérer leurs pertes.
Quelques brèves au milieu de cette émission. Alors, des nouvelles du Canada. Après une contraction de son produit intérieur brut au premier trimestre, l'économie canadienne, touchée de plein fouet, on s'en doute par la baisse des prix du pétrole, se dirigerait, au dire de certains, même si de grandes voix financières s'élèvent pour le contredire, vers une récession, selon les estimations de grandes banques quand même.
Fin de la première partie. Restez là, on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure au cours de laquelle il sera question d'ubérisation, du prix du travail d'un parent à la maison, mais d'abord d'économie du partage.
Oui, alors l'économie du partage ou l'économie collaborative, on l'appelle aussi en anglais peer-to-peer, mais je ne veux pas parler anglais ici, bien entendu. Enfin, peu importe le champ précis de ces appellations et leurs différences trop subtiles pour être signifiantes. Ce sont d'abord des entreprises qui n'innovent pas avec un produit. Uber, non, il n'y a rien de nouveau. C'est juste la mise à disposition de votre voiture. Ou c'est pareil pour Airbnb, vous louez un appartement, vous n'en construisez pas un. Donc, il ne faut pas confondre cette économie avec une économie véritablement productive. Et à partir de ce simple principe, on peut peut-être se dire qu'il y a là-bas un mirage. Ça a intéressé Jean-Charles Simon dans un article de La Tribune qui m'a semblé assez pertinent et que je vous lis. Les modèles économiques de ces entreprises sont généralement basiques. D'abord, construire une application pour smartphone et tablette bien fichue. Ergonomie, simplicité, fluidité. Tout pour que le client, monsieur et madame tout le monde, n'ait ni embarras, ni réticence sur la plateforme qui va lui apporter ce qu'il ou elle attend. Pas de prouesse technologique là-dedans, mais l'exigence d'une solution sans tâche, d'un design impeccable et attractif, et surtout d'un usage intuitif. Ensuite, la constitution d'une offre de biens ou de services qui voudra bien s'inscrire sur la plateforme et acquitter une commission sur chaque « transaction », entre guillemets. Le cœur de la rémunération de ces entreprises, c'est ça, c'est la transaction. Enfin, l'acquisition de clients, souvent à grand renfort de campagnes de publicité, elles-mêmes financées par des levées de fonds records. En prime, autant que possible, de la pub gratuite, pardon, créée par l'intérêt, voire la sidération que peut susciter le nouvel entrant sur un marché.
Ce qu'on appelle le buzz.
Oui, c'est ça. Quel beau mot. Une stratégie qu'Uber aura joué à fond, à coup de provocation et de harcèlement judiciaire contre les réglementations existantes. Je vous demande une petite précision, François. En France, on prononce de façon horrible, on dit Uber. comme le prénom Uber. Rassurez-moi, ici on dit bien Uber.
On va dire Uber ou Uber, ou Uber. Mais en fait, on va dire les deux, je crois.
Ouais,
on est assez ambivalent là-dessus.
Aïe.
Les chauffeurs de taxi utilisent je ne sais pas quel accent, mais ça vient toujours avec deux ou trois invocations d'ordre religieux ensuite.
Ça peut s'expliquer, d'accord. Mais en fait, alors que ces startups n'ont à la bouche que le mot « innovation », celle-ci se réduit souvent à peu de choses, là où ces entreprises sont d'abord les rejetons de réglementations mal conçues. C'est flagrant pour les taxis, vous en parliez, dont l'offre stupidement contingentée pour permettre un marché secondaire des licences a créé naturellement un appel d'air pour de nouveaux entrants. Là, comme le journaliste est à la Tribune de France, il fait allusion plutôt à la situation française où les licences sont extrêmement restreintes.
Et c'est la même chose ici, sauf que la finalité, ça n'a jamais été de permettre la revente. C'est un effet collatéral du fait de... On limite le nombre de places de taxi, donc chaque place prend de la valeur. Et c'est le système de nos licences aussi qui valent une fortune. Ça vaut quatre fois le prix de la voiture, généralement.
Et c'est vraiment l'effet d'une perversion, parce qu'il suffirait de s'en occuper au moment où ça démarre, en augmentant, par exemple, le nombre de licences, pour qu'immédiatement, le marché abaisse leur prix. Mm-hmm. Et après, quand vous ne le faites pas pendant un certain temps, c'est fini et vous êtes rentré avec des... Enfin, vous avez créé sur le marché des situations de rente sur lesquels les gens spéculent, par exemple, pour leur retraite. Si on la retire, c'est une catastrophe. Au final, les taxis apparaîtront forcément comme chers et ringards face à ces nouveaux acteurs, du fait même de la réglementation censée les protéger. Faites voler en éclats celle-ci, par exemple avec des licences gratuites abondantes, et l'attractivité des nouveaux entrants serait quasiment réduite à néant, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Dans la plupart des cas, ces startups de l'économie du partage sont les passagers clandestins des modèles sociaux dans lesquels elles prospèrent. J'aime beaucoup cette formule. La protection sociale est trop chère, on est tous d'accord. Le droit du travail est assommant, n'est-ce pas? Ça tombe bien, ces nouvelles entreprises n'ont qu'à faire de ces vieilles choses. Pas de salariés ou presque, tandis qu'une armée de petites mains va travailler pour la startup. Pas de lien de subordination au sens du droit du travail, quand bien même le nouveau prolétariat de l'économie collaborative peut être dépendant en totalité d'une même entreprise. Un point qui a d'ailleurs valu récemment une requalification en contrat de travail de la relation entre un chauffeur et Uber, en Californie. Mais ces entreprises font bien sûr tout pour échapper à ce qui ruinerait leur modèle et leur avantage compétitif. Les coûts sociaux, très peu pour elles, que chacun se débrouille ou que la collectivité, dans sa naïveté solidaire, en assure la charge. C'est intéressant parce que, en retournant un petit peu les choses, on s'aperçoit que la notion de progrès n'est pas tout à fait évidente là. La notion de créativité non plus. Et quant à la notion d'évolution sociale, elle est carrément régressive. Ce phénomène représente une opportunité formidable pour ces nouvelles startups dont le développement repose sur une double attente de leurs utilisateurs. Payer le moins possible, donc s'exonérer d'un système social extrêmement coûteux, mais bénéficier quand même de celui-ci, car il couvre tout le monde et plutôt bien avec ses minima, ses aides multiples et sa prise en charge pour tous des soins les plus lourds. Voilà encore un effet pervers absolument terrible. C'est évidemment une évocation du système français, mais le système québécois lui ressemble quand même pas mal au niveau de la couverture santé. Donc, j'ai une idée, je passe pour un... gars qui fait quelque chose de très neuf, qui crée de l'emploi, en réalité, je ne crée rien du tout. Je facilite les choses, mais je ne me plie pas du tout aux exigences qu'il y a en matière de cotisation. Je ne participe pas à la collectivité pour lui permettre de soigner tout le monde gratuitement.
Et je prends ma cote, je la fais sortir du pays.
Exactement.
Hors impôt.
Exactement. Donc, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu bizarre. Donc... si je reprends l'article, d'ailleurs, il y a une exclamation qui vient bien dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Bingo, ça coco, c'est un super business plan pour une magnifique levée de fonds dans la Silicon Valley, ce que vous évoquiez à l'instant. Et au fond, on est là dans une espèce d'adaptation particulièrement loufoque du paradis fiscal, tout simplement. Hein. La plupart de ces acteurs ne créent pas de valeur ajoutée, pas de nouveaux produits, pas de nouveaux services et même pas la redistribution d'une rente d'un secteur au consommateur. Mais la substitution d'un type d'anciens acteurs souvent accablés de règles surannées par une multitude d'offreurs de biens ou de services sans droit ou protection qui assurent de ce fait des prix imbattables. Il n'y a même pas de redistribution d'une rente au profit des consommateurs, car ces sociétés se créent aussi la leur, captée par les seuls propriétaires des plateformes, assurant la mise en relation de l'offre et de la demande. un petit nombre de détenteurs d'une rente énorme face à d'immenses populations confrontant aux coûts le plus péniblement ajustés offre et demande. On est carrément dans un schéma marxiste. Il faudrait leur mettre des hautes formes, des gros cigares pour les caricaturer. Au lieu d'une émulation et d'une saine concurrence, parce que c'est ça le grand mythe aussi qui ressort par derrière et dont on nous rebat les oreilles, il y a donc tout lieu de penser que va émerger un leader omnipotent par secteur dont la position de plus en plus forte lui permettra de maintenir, voire d'accroître sa rente. À cette émergence de monopole naturel pourrait d'ailleurs répondre un jour une forme de nationalisation. Après tout, une municipalité d'une certaine taille n'aurait pas grande difficulté à mettre en place une plateforme gratuite à la technologie open source pour assurer la meilleure confrontation possible entre offres et demandes de véhicules ou de locaux à louer. Et dans ce cas, si l'acteur public ne percevrait pas de redevances excessives sur ces outils, il y aurait une réelle redistribution de rentes captives au profit des consommateurs. Il ne s'agit pas évidemment de rejeter ou même de contrarier les évolutions permises par les nouvelles technologies, mais de les approcher lucidement et de réaliser que, comme le bon grain est livré, certaines innovations entre guillemets sont en fait les sous-produits des vices plus ou moins cachés de nos modèles économiques et sociaux. Adaptons ces derniers, améliorons-les, en particulier avec une protection sociale moderne qui se substituerait à l'architecture dépassée de la sécurité sociale des Trente Glorieuses, et nous tirerons alors le plus grand bénéfice des avancées technologiques. Moi, j'avoue que tout ça remet bien les pendules à l'heure.
Oui, il y a une distinction à faire entre l'innovation et le progrès. Oui, je reviens un peu sur cette question de taxi pour peut-être illustrer le propos, parce que depuis quelques années, on dirait que la technologie s'est accélérée. Voici 15 ans de cela, on s'imaginait que Microsoft posséderait le monde à l'heure où on se parle. C'est pas le cas. Ils ont été plus ou moins tassés par d'autres startups qui ont sorti d'autres services. Et il se pourrait que Uber, même si elle s'emparait du monde du transport demain, ben, pourrait se faire tasser, par exemple, par les voitures automatiques qui s'en viennent et qui sont de plus en plus admises dans les États américains. Éventuellement, il n'y aura peut-être plus de voitures individuelles et juste des voitures autonomes.
Okay, oui, parfaitement. Mais on revient là sur la prise en charge totale par Google et sur la mainmise totale, non seulement de l'Internet, de la communication et du transport, mais que sais-je encore, de la santé.
Oui, mais peut-être que Google, à son tour, se fait tasser la semaine d'après par une autre. Enfin, on peut rêver, voilà. Bon, on vous parle de valeur des choses, on va vous parler de valeur des gens maintenant, à la faveur d'un texte d'Isabelle Ducasse qu'on ne pourra pas lire en entier parce qu'il est très long. Un texte qui s'intitule « Combien vaut le travail d'une mère ?» Ça a été publié dans la presse du 8 juillet. Avoir des enfants, ça coûte cher, surtout aux mères qui s'en occupent plus. Quand des parents se séparent, les femmes devraient être dédommagées pour le temps qu'elles ont consacré à leur famille plutôt qu'à leur carrière, selon un comité d'experts. Oui, mais comment? Un enfant, ça n'a pas de prix, bien sûr, mais sa naissance crée généralement un trou dans le compte en banque de ses géniteurs. Et ce trou se transforme souvent en abîme pour le parent qui met la pédale douce côté carrière pour consacrer plus de temps à la famille. En cas de rupture, celui qui a fait les frais de l'arrivée des enfants, généralement la mère, devrait recevoir une compensation de son conjoint pour ses pertes financières, selon la recommandation d'un comité d'experts chargé par Québec de moderniser le droit de la famille. Cette obligation s'appliquerait à tous les parents, mariés ou non, mais pas aux couples sans enfants. C'est nouveau de prendre l'enfant comme critère de qualification en droit de la famille plutôt que la conjugalité, c'est-à-dire le couple, souligne Alain Roy, professeur de droit à l'Université de Montréal, qui a présidé le comité consultatif sur le droit de la famille. Chacun a la responsabilité d'organiser sa relation conjugale comme il l'entend, mais à partir du moment où il y a un enfant, on ne peut plus parler seulement du couple. Il y a une nouvelle responsabilité parentale et il est normal que les désavantages économiques qu'elle entraîne soient partagés équitablement. Une mère qui passe 2 ou 3 ans à l'extérieur du marché du travail ne fait pas ça pour elle-même, observe l'économiste François Delorme qui enseigne à l'Université de Sherbrooke. Quand tu ne prends pas les précautions nécessaires pour te protéger en couple, ça n'a de conséquences que pour toi. Mais quand des enfants sont touchés, il doit y avoir un rééquilibrage. Le gouvernement doit être un peu paternaliste dans l'intérêt de la société. L'idée d'une compensation pour celui qui s'investit le plus dans son rôle de parent n'existe nulle part ailleurs, selon les recherches. Si Québec adopte ce principe, il s'agirait d'une première mondiale. La formule a essuyé de nombreuses critiques, trop compliquées, irréalistes, ne tenant pas compte de la situation financière des jeunes familles. On peut reconnaître que la mère a subi des pertes financières, mais le père n'a pas nécessairement les moyens de la dédommager en conséquence. Les experts consultés par la presse s'entendent toutefois sur le fait que les lois qui encadrent les relations familiales doivent être adaptées à l'évolution de la société. Dominique Goubeau, professeur de droit à l'Université Laval et membre du Comité consultatif sur le droit de la famille, critique notamment le fait que la compensation proposée par le comité serait versée en une seule fois. Mais les besoins et les moyens fluctuent dans le temps, observe-t-il. La majorité des Québécois ont peu d'actifs, sauf ceux qui font partie du patrimoine familial, comme la résidence, la voiture et les régimes de retraite. Si on partage ces actifs, on vient de combler une bonne partie des besoins. Les moyens du débiteur doivent être pris en compte pour déterminer la compensation, répond Maître Roy. Si on n'a pas les moyens, il n'y aura pas de compensation. Il n'est pas question d'assommer quelqu'un avec une dette de 200 000 $. Mais si on prévoit que le payeur pourrait avoir des moyens plus importants dans l'avenir, il est possible d'étaler les paiements sur 10 ans. Le président du comité souligne aussi que la compensation pourrait se faire par un transfert d'actifs comme une maison ou des REER. Il ajoute que la formule permettant le calcul des sommes à verser devra aussi prendre en considération les pertes futures, c'est-à-dire le retard pris dans la carrière et son impact financier. C'est d'ailleurs là qu'il pourrait y avoir des montants plus conséquents, dit-il. Même actuellement, des compensations sont versées assez fréquemment aux mères, indique Jean-François Chabot. Par exemple, des REER qui avaient été mis à un seul nom peuvent être transférés en partie au conjoint, et on peut demander le partage des cotisations à la Régie des rentes du Québec. Certains paient aussi une pension alimentaire, souvent pendant la période de transition, mais parfois à long terme, ajoute-t-il. On reconnaît que l'un des deux a fait des concessions importantes en s'occupant de la famille. Par exemple, certains laissent la maison à l'ex-conjointe dans le meilleur intérêt des enfants. Alors voilà, la question est posée et c'est toute la réflexion qui se fait en droit de la famille québécois actuellement. On le sait, les Québécois sont les gens qui se marient le moins peut-être au monde. Il faut maintenant repenser nos structures de droit familial pour faire en sorte que le choix d'élever des enfants ne soit pas une pénalité pour le parent qui s'y consacre. Et ça va être quelque chose dans les prochains mois qui va venir déranger notre culture, mais qui va peut-être faire acte d'innovation. Mais là, je parle à l'échelle mondiale, puisque c'est quelque chose qu'on regarde d'un peu partout sur Terre.
J'ai pesé 10 kilos, dont 2 de vélo, en pantalon velours et débardeur éponge. J'ai chaussé du 18, du 28, du 38. J'ai eu les fesses rouges, du talc dans les langes, les cheveux gras et longs. J'ai d'ailleurs été blond. De 0 à 8 mois, puis à 15 ans. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. J'ai menti à ma mère, volé de la monnaie. Ça, je n'ai jamais su me taire. On me l'a reproché. Mais au moins à présent, je le sais. Je le sais. J'ai eu l'air frénétique, hautain et colérique, ou mou comme une limace, comme un œuf que l'on casse. J'ai rêvé de judo, aïkido. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, je peux changer. Puis hier aux aurores, mon âme et puis mon corps, tordu par l'alcool fort, on sut te mal aimer. Je ne sais pas pourquoi, pas encore. Pas encore, mais tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. j'ai changé, je peux changer. Tu vois, j'ai changé, je peux changer, je vais changer.
Albin de la Simone qui chantait « J'ai changé ». J'en profite pour rappeler que les choix musicaux et la mise en onde de cette émission sont le fait de Rémi Hermoso, l'homme de pouvoir derrière la vitre, voilà, qui nous contrôle et nous fait taire, mais avec une désinvolture accablante, je le dis franchement. Voilà, « J'ai changé », ça invoque aussi une autre façon de penser et c'est ce dont vous allez nous parler.
Oui, pour terminer sur un sujet, ah, j'allais dire plus léger, mais est-ce bien sûr? Alors, vous connaissez le philosophe allemand Adorno. Il a une formule que moi, j'adore et qui peut servir à peut-être accompagner toute une vie. C'est « il faut apprendre à penser contre soi-même
mm-hmm. ».
Pas mal, non?
Je vous dirais que je ne connais pas du tout Adorno.
Ah, bon, ben voilà une bonne entrée en matière pour le connaître. Mm. Hein? Il faut apprendre à penser contre soi-même. Bien, se lever le matin avec une idée comme ça, c'est s'assurer une journée intéressante. Alors, notamment, bah, écoutez, appliquons ce genre de formule au travail. Hein, pourquoi Et puis, on se dit, si j'évite de me transformer en fossile, je vais peut-être reprendre goût à la vie. Enfin, en tout cas, Olivier Schmucker, qu'on n'avait pas lu depuis un certain temps, s'est intéressé à cette question. Alors, moi, je me suis jeté sur cet article qui s'appelle « Comment arriver à penser autrement ?» dans les affaires. Enfin, dans le journal des affaires. But de l'exercice. Ouvrir son esprit à la nouveauté afin que tout et n'importe quoi attire notre attention, voire nous fascine. Cet état d'esprit est particulièrement utile en phase d'incubation, soit lorsqu'il nous faut brasser des idées. Durée et rythme. Il est très précis. L'exercice prend 5 minutes et doit être pratiqué 2 fois par jour pendant plusieurs semaines si l'on veut en faire une seconde nature. Alors, il vous explique ça clairement. Vous prenez un chronomètre, vous le réglez sur 5 minutes et vous installez où vous voulez. Et puis, vous notez les nouveautés de votre environnement, en commençant par la vue. Alors, vous regardez les couleurs, vous notez comment elles changent subtilement ou fortement en fonction des ombres, des lumières naturelles ou artificielles. Et puis, regardez plus attentivement pour observer les marques de décoloration sur les murs. Bonne chance, ça a l'air passionnant. Concentrez-vous maintenant sur la variété d'angles présents dans votre environnement immédiat. Porte ouverte, le mur, les meubles. Notez les angles de circonstance, par exemple celui d'un magazine sur la table ou encore d'une veste jetée sur une chaise. Et notez à présent les mouvements. Une mouche volant dans la pièce. Ah, je comprends enfin le truc, regardez les mouches qui volent au plafond. Mm-hmm. Maintenant, je comprends que c'est dans un modèle de, comment dire, de développement personnel. Ça doit être ça. Mm. Les rideaux soulevés par le vent. Ah, les rideaux soulevés par le vent. Les va-et-vient des individus et la façon dont ils se déplacent. Hein, les gens qui rentrent à cheval dans votre bureau, par exemple. Après la vue, sollicitez vos autres sens, l'ouïe et l'odorat en particulier.
Faut-il le dire avec le cheval, c'est particulièrement important.
Ah bah oui, toujours dans l'optique de repérer les nouveautés dans votre environnement. Alors, ça c'était un aspect, hein, c'était sur la durée et sur le rythme. Alors, il y en a un autre, c'est pour concrétiser une idée neuve. Comment est-ce qu'on... Le but de l'exercice, c'est de faire prendre le dessus à la réflexion. Grâce à une manipulation consciente de l'information. Dans cet état d'esprit, on est armé pour établir des buts, effectuer des raisonnements abstraits et prendre des décisions. Alors, voilà les différentes étapes. Reconnaissez l'existence du problème en question. Hein. L'un des principaux indices est la présence d'émotions négatives, hein, le stress, l'anxiété. Définissez les problèmes et déterminez de façon très précise quelle en est la cause. Fixez-vous un but spécifique pour gérer le problème en vous assurant que vous avez les moyens d'atteindre cet objectif. Envisagez toutes les solutions possibles, ouvrez-vous l'esprit et soyez le plus créatif possible durant cette phase. Ne portez aucun jugement sur les solutions énoncées, laissez-les venir et s'exprimer. Même si certaines de vos idées vous semblent ridicules, posez-les toutes par écrit. Évaluez les solutions que vous avez imaginées en faisant une liste des pour et des contre. Choisissez la meilleure solution en vous basant sur la liste des arguments en faveur et en défaveur. Élaborez un plan pour mettre en pratique la solution retenue et testez-la. Vous devez peut-être diviser ce plan en étapes. Fixez-vous alors un délai pour la réalisation de chaque étape. Jugez du succès de la solution retenue après l'avoir testée en vous demandant si vous avez atteint le but que vous vous étiez fixé. Et si la première solution n'est pas vraiment efficace, essayez-en une parmi celles que vous aviez retenues. Là encore, définissez les étapes intermédiaires et le temps dont vous avez besoin. Alors voilà encore un exercice pour améliorer vos capacités d'improvisation en répondant à une série de stimuli évolutifs.
Je vous écoute, je suis en train d'imaginer Alexis Tsipras et Angela Merkel enfermés dans une pièce et votre texte. Oui. Et ça aurait réglé tous les problèmes.
Ah oui. Depuis longtemps, hein. C'est quand même incroyable. Mais bon, je suis sûr qu'ils essayent quand même un petit peu. C'est ça l'espoir, c'est de faire des exercices comme ça. Bon, alors, vous prenez encore un chronomètre et un ordinateur. Hein. Vous réglez le chronomètre sur 15 minutes, vous allumez l'ordinateur et puis vous visionnez un épisode d'une série comique ou encore un film. Ah oui, on peut faire ça sur un ordinateur. Hein. Ah oui, vraiment ? Au bureau ? Ah bon ? L'important, c'est que vous n'ayez jamais vu le film auparavant. Alors, quand la sonnerie retentit, vous appuyez sur pause, vous fermez les yeux, vous prenez une grande respiration, puis vous réglez le chronomètre sur 5 minutes et vous relancez le film, mais alors en coupant le son. Et vous racontez à voix haute ce que vous voyez. Vous décrivez l'action, les émotions des personnages, comment l'intrigue progresse. Et vous ne devez pas vous arrêter avant la fin des 5 minutes.
Là, je viens de voir Angela Merkel devant un porno. C'est particulièrement drôle.
Oui, faites ça, surtout juste avant de dîner. Cet exercice sert à améliorer la capacité à répondre adéquatement à une action qu'on observe. Il permet par la suite de développer les talents d'improvisation. Et on en a besoin, de talents d'improvisation avec la crise grecque en ce moment. Et bien voilà, si vous faites ça, vous serez en mesure de changer d'état d'esprit en un clin d'œil ou presque. Et donc de vous placer dans les meilleures conditions juste avant un moment crucial de votre journée de travail. Alors en passant, hein, je vous rappelle cette phrase de Woody Allen. Mon cerveau, c'est mon deuxième organe préféré.
Allez, comme chaque semaine, on termine cette émission avec des nouvelles brèves. Je commence immédiatement en vous parlant des travailleurs étrangers, puisqu'il semblerait que Ottawa et Québec ne s'entendent pas. D'abord sur ce qu'est la réalité, ensuite sur ce que chacun entend faire. En effet, le ministre québécois Sam Hamad a dit que son collègue fédéral, M. Poilievre, était très ouvert à des modifications pour accommoder les besoins particuliers du Québec, qui, on se le rappellera, ne demande plus de travailleurs étrangers. Alors que M. Poilievre lui dit « Non, non, il n'y en a pas question. » Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement suivre.
Ah, des nouvelles des phares en Atlantique. Je suis sûr que vous aimez les phares, François, comme moi, comme tout le monde. Comment ne pas aimer les phares? Eh bien, le gouvernement fédéral, dont vous disiez du mal à l'instant, a quand même fait une chose bien. Il a donné une désignation patrimoniale à 30 phares en Atlantique. Allez les visiter un par un.
Le monopole de la SAQ est actuellement remis en cause. C'est ponctuel. Chaque fois qu'on est en système de coupure budgétaire, les gens disent qu'il faudrait vendre la Société des alcools du Québec, ce fournisseur de vin à la grandeur du territoire. Bien, sachez qu'il y a un comité piloté par Lucienne Robillard qui en vint l'idée de ouvrir le marché à une certaine forme de compétition et pour concurrencer, en fait, permettre à l'État de toucher les mêmes recettes, augmenter la taxe sur les alcools. Donc, il y aurait un aussi bon service fait par un entrepreneur privé au même prix, puisque le Québec ramasserait plus d'impôts plutôt que de ramasser les profits de la SAQ. Évidemment, c'est vrai sur Montréal, où la clientèle est. Cependant, si vous vivez en région éloignée, eh bien, vous ne pouvez pas vous attendre au type de service que la Société des alcools du Québec vous donne actuellement.
On parlait de nos amis de Uber tout à l'heure. On sait que à Montréal, il y a à peu près les mêmes problèmes qu'à Paris. Vous l'avez évoqué, François. Et qu'est-ce qui se passe à Toronto? Eh bien, à Toronto, la ville de Toronto avait demandé la suspension de l'activité d'Uber. Eh bien, elle a vu sa demande rejetée vendredi dernier. Figurez-vous qu'un tribunal de l'Ontario a rejeté une injonction demandée par la municipalité. Alors, à quel motif? Eh bien, au motif que Uber est un intermédiaire en service de transport par taxi et doit par conséquent se conformer au règlement de la ville sur la question. Je pense leur envoyer l'article que j'ai lu tout à l'heure.
Valeurs mobilières, nouvel épisode dans la guerre des compétences que se livrent actuellement Québec et Ottawa sur le sujet. Je vous rappelle que la Cour suprême a dit que les valeurs mobilières étaient de compétences strictement provinciales, mais que rien n'empêchait les gouvernements de s'entendre entre eux pour mettre quelque chose en surpied, ce qui a conduit le gouvernement fédéral à s'entendre avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, je crois, pour une agence nationale dans le cadre d'une loi plus vaste qui est à la fois des provinces et du gouvernement. Eh bien, sachez que Québec entend contester cette loi-là devant la Cour d'appel du Québec pour des raisons de stabilité. Il n'est pas question qu'on avance dans un nouveau projet législatif, qu'on engage finalement des entreprises sur de nouvelles fondations financières sans les avoir testées juridiquement. Alors, encore un dossier à suivre, je sais, je me répète.
Alors, le CDE, qui pond des rapports toute la journée, vient d'en pondre un nouveau sur l'endettement public. Alors, c'est un rapport qui va réjouir au plus haut point Wolfgang Schäuble, qui est le puissant ministre des Finances allemand, comme vous le savez, puisque, en résumé, eh bien, on a considéré dans ce rapport que le haut niveau d'endettement public est préjudiciable à la croissance économique. Quel scoop!
Et voilà, vous l'entendez, l'indicatif nous signale déjà la fin de cette émission. Il nous reste à remercier Rémi Hermoso d'en avoir assuré la mise en onde, à vous remercier de nous avoir écoutés avec patience pendant 7 heures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Kiosque Magazine.